Bonsoir et bon début de semaine à tous. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, quatre catégories des candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ayant déployé des moyens importants pour battre campagne, ont déjà parcouru plus de 5 provinces. La deuxième catégorie est celle de Fayulu, Mukwege, Sesanga, Mutamba et Anzuluni, qui sont aussi en campagne à un rythme ralenti. Trois candidats dont Matata Kikuni et Diongo se sont désistés en faveur de Katumbi, alors que les 16 autres se font toujours attendre sur le terrain. Lancée officiellement dimanche 19 novembre 2023, la campagne pour les élections générales de décembre prochain s'est bien déroulée cette semaine. Aucun incident majeur n'a été signalé. Cependant, 6 candidats ont annoncé leur volonté de traduire en justice le président de la commission électorale nationale indépendante pour faux et usage de faux et le ministre de l'Intérieur pour n'avoir pas mis à leur disposition 25 policiers comme cela est prévu par la loi électorale. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, quel bilan dressé? Nous en parlons ce soir avec Alain-Joseph Lomanja. Il est analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs.
Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur Jeff Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir Madame Kéline et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kati.
Et Gaucher Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, voilà, département des sciences politiques et administratives de l'Université catholique de Graben à Butembo. Professeur Gaucher Kizito, bonsoir.
Bonsoir Madame et bonsoir à tous les auditeurs.
À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Mais vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, une semaine après le lancement de la campagne électorale, quatre catégories des candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ressortent du lot avec des moyens importants pour battre campagne et ont déjà parcouru plus de 5 provinces. La deuxième catégorie est celle de Fayulu, Mukwege, Sesanga, Mutamba et Anzuluni, qui sont aussi en campagne à un rythme décéléré. Trois candidats se sont désistés. Il s'agit de Matata Mponyo, Seth Kikuni et Franck Diongo en faveur de Moïse Katumbi, alors que les 16 autres se font toujours attendre sur le terrain. Michel Kifinda nous en dit plus.
Alors que Félix Antoine Tshisekedi a lancé sa campagne dimanche dernier au stade de Martyrs ici à Kinshasa, Moïse Katumbi, lui, a plutôt choisi la ville de Kisangani pour se lancer en campagne. Une semaine après, Katumbi a déjà parcouru 6 provinces de l'Est, de la Tshopo au Sud Kivu, en passant par le Haut et le Bas-Zouélé, l'Ituri et le Nord Kivu. Félix Tshisekedi est déjà passé par 5 provinces, dont Kinshasa, Congo Central, Maniema, Équateur et Sud-Ubangi. Moïse Katumbi centre son message sur la restauration de la paix, l'amélioration du social et la reconstruction nationale, alors que Félix Tshisekedi promet de consolider les efforts de développement déjà amorcés au cours de son premier mandat. D'autre part, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Delis Sanga, Constant Mutamba et Anzuluni Bembe sont aussi déjà en campagne. Matata Mponyo, Seth Kikuni et Franck Diongo battent campagne pour Moïse Katumbi en faveur de qui ils ont désisté à leur candidature. Les 16 autres candidats présidents continuent à se faire attendre sur le terrain de la campagne.
Merci Michel Kifinda. La campagne électorale est entrée dans sa deuxième semaine depuis hier dimanche 26 novembre et des 26 candidats alignés au départ pour l'élection présidentielle, 3 se sont désistés et 23 sont encore dans la course. Quelques-uns seulement d'entre eux ont mis le pied sur l'accélérateur et ratissent large. Mais quels sont les messages que tous ces candidats véhiculent auprès de ceux qui suivent leur meeting? Notre confrère Jean Gandou a suivi les uns et les autres.
Au-delà des slogans que chacun a choisi pour la campagne, les différents candidats qui se sont déjà jetés à l'eau axent les messages sur plusieurs thèmes. Si le candidat numéro 20 est président sortant, partout il passe revient sur ses réalisations, portant notamment sur la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, l'entrepreneuriat de jeunes, les infrastructures ainsi que la paix dans la partie est du pays, sans oublier le programme de développement des 145 territoires. Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, met l'accent sur la paix, l'emploi des jeunes, mais s'attaque aussi à la politique du président sortant en relevant ce qu'il qualifie de faiblesse dans sa gouvernance et se présente comme celui qui va relever les défis du développement socio-économique du pays. Martin Fayoulou, candidat numéro 21, veut bâtir un État fort, prospère, libre et digne tout en assurant l'intégrité territoriale. Adolphe Mouzitou, numéro 24, en dehors de la maîtrise du cadre macroéconomique, mise sur un budget de 300 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Quant à Floribert Anzoulouni, numéro 5, il veut enrichir son projet de société avec les réalités locales. Pour cela, il préconise l'organisation des tribunes d'expression populaire. Délice Essanga, candidat numéro 4, place le curseur de sa campagne sur la refondation de l'État par la réduction du train de vie des institutions. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Alain Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et des docteurs en éthique sociale, une semaine après le lancement de la campagne électorale. Quel bilan vous dressez du déroulement même de cette campagne?
Très bonsoir madame. Alors moi ce que je constate en premier lieu c'est le fait que la campagne se déroule jusqu'ici dans un climat plus ou moins relativement calme et que malgré les tensions politiques, les candidats peuvent se déplacer librement et battre campagne dans toutes les provinces du pays. La deuxième chose que je voudrais constater, c'est que derrière les quatre catégories de candidats telles que identifiées par Radio Okapi, se cachent probablement plusieurs problèmes qui demandent d'être analysés pour comprendre les disparités et les inégalités entre les différents candidats. Et parmi ces problèmes, je voudrais peut-être, si vous permettez, relever quelques-uns. Le premier problème pour moi, c'est le problème du traitement égal de tous les candidats. Est-ce que les candidats sont placés dans les mêmes conditions, dans une forme d'égalité de chance? On sait que l'État congolais n'organise pas encore les financements publics des partis politiques, ce qui fait que ceux qui disposent de plusieurs de moyens privés, comme ceux qui ont accès aux caisses de l'État, sont probablement les plus favorisés jusque-là, et les autres qui n'ont pas assez de moyens pour battre campagne dans un pays continent se retrouvent dans cette situation où ils ne peuvent se contenter que des déplacements à proximité de Kinshasa. Le deuxième problème que j'observe personnellement, qui est lié au premier, c'est que l'État congolais n'a pas encore réussi à contrôler efficacement et réellement le financement des partis politiques. D'où est-ce que les candidats et leurs partis ou regroupements politiques trouvent l'argent qu'ils utilisent pendant la campagne et à quelle hauteur ils utilisent cet argent-là? Je crois que ça, c'est quand même une question de sécurité publique pour le pays, parce qu'il y a un danger d'hypothèque ou de bradage des ressources du pays par les candidats. À supposer que je sois candidat et que j'ai pas de moyens de battre campagne et que je trouve par exemple des multinationales ou des puissances étrangères qui peuvent financer ma campagne contre promesse de vente des minerais à prix abordable, je peux facilement hypothéquer les richesses du pays pour pouvoir trouver l'argent et battre campagne. Donc c'est une question sur laquelle il convient que la nation congolaise fixe les yeux et qu'on cherche à résoudre une fois pour toutes la question du financement public des partis politiques afin de pouvoir la réguler. Et j'ai l'impression que presque tous les candidats n'ont pas attendu la date du début de la campagne électorale. Ils se sont lancés très tôt dans la pré-campagne, ce qui n'est pas un bon signe parce que quand on est candidat, président de la République par exemple, on doit donner l'exemple en ce qui concerne les respects de la réglementation relative à la campagne électorale. Un autre problème que j'observe personnellement, c'est la prolifération de fake news et de contre-campagnes tendant à discréditer certains candidats ou à manipuler l'opinion publique. Et ça, c'est en général de la part des militants des partis politiques, des regroupements politiques et même de certains médias. Je pense que c'est une tendance assez dangereuse parce que ça risque d'impacter négativement et la campagne électorale et probablement les résultats des élections. Et si pour terminer, je voudrais peut-être relever le fait qu'il y a une sorte de tactique utilisée par certains candidats qui consistent notamment dans les réseaux sociaux à inoculer l'idée que certains candidats seraient des candidats des étrangers ou carrément des candidats étrangers, ce qui crée quand même assez de tensions entre les militants des différents partis politiques. Je pense que on devrait appeler les acteurs politiques à un peu plus de responsabilité parce qu'ils connaissent bien la situation de fragilité et le danger de perdre la cohésion sociale des populations en cette période cruciale.
Alors, vous avez énuméré là quelques problèmes que vous avez constatés depuis le début de la campagne électorale à Lomanja, notamment. Vous estimez qu'il n'y a pas un traitement égal des candidats. Certains n'ont pas des moyens, mais lorsque on postule pour, par exemple, la magistrature suprême, il faut se préparer en conséquence à la Lomanja. Vous ne pensez pas?
Effectivement, on sait que c'est un droit de chaque citoyen de pouvoir postuler pour gérer les affaires publiques du pays. Mais est-ce que ce droit doit être subordonné au bien matériel, à la richesse? Est-ce que là, on va tomber dans le fait qu'il n'y aura que des candidats fortunés qui peuvent battre campagne et qui peuvent postuler au poste public dans ce pays? C'est pourquoi peut-être le législateur devrait penser à pouvoir alléger un peu les conditions d'acceptation des candidatures et aussi parce qu'on connaît l'étendue de notre pays. Donc nous n'allons pas nous contenter du fait que les postes publics soient réservés seulement à ceux qui peuvent s'offrir les moyens de battre campagne. Il faudra quand même qu'on offre à tous les citoyens la possibilité de pouvoir candidater à tous les niveaux. Et c'est pour cela que j'ai parlé aussi de la possibilité d'un financement public des partis et des regroupements politiques si possible.
Alors parlons des messages véhiculés par ces différents candidats à la population. Une certaine opinion estime qu'on est plus sur les individus plutôt que sur les programmes des différents candidats. Est-ce que c'est le même constat que vous avez aussi fait Alain Lomanja?
Alors, ce que je constate d'abord, c'est que presque tous les grands candidats avaient déjà pris soin de rendre public leur projet, leur programme, avant ou au début de la campagne électorale. Quand vous essayez de lire ces programmes-là, vous avez plus ou moins une idée de l'offre politique qu'ils proposent au pays. Mais en réalité, je ne sais pas combien de citoyens ont déjà pu avoir accès à ces programmes-là et ont pu les parcourir, d'autant plus que certains sont assez volumineux. Alors, mais quand on les écoute au niveau des rassemblements populaires, de leurs meetings, de campagne, on a effectivement l'impression qu'il n'y a pas trop d'idées novatrices que les candidats avancent et qu'on est dans les pics, dans les attaques individuelles qui font plaisir à leurs militants, mais qui n'aident pas le progrès du débat de société sur les questions essentielles, l'essentiel et les défis auxquels la nation est confrontée.
Professeur Jeff Modimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur, votre bilan une semaine après le lancement de la campagne électorale.
Bien, merci beaucoup Madame Kéline pour la question que vous venez de me poser. Et je voudrais saluer aussi le professeur et Monsieur Lomanja avec qui nous participons à cette émission ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi. Et d'entrée de jeu, je voudrais faire cette observation que certes la campagne a commencé, mais il ressort carrément que la loi électorale présente certaines faiblesses. Et je pense que M. Lomanja en a parlé. Et pourquoi? Parce que la loi électorale congolaise n'a pas déterminé le seuil de dépenses électorales qu'un candidat peut engager, et même aussi le seuil qu'un candidat peut bénéficier de ses partenaires. Alors la conséquence, c'est que les acteurs politiques disposant des moyens mirobolants sont très visibles sur le terrain et sont en train de battre correctement leur campagne. Mais d'autres attendent ou le font de manière très timide. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, ils s'observent que, et même en France, ils s'observent que la loi a déjà déterminé le seuil de dépenses au-delà duquel un candidat ne peut pas aller ou encore ne peut pas bénéficier. Mais au niveau de la RDC, on n'y a pas pensé et c'est ainsi que on constate que les candidats n'ont pas de moyens égalitaires. Deuxième chose, c'est la moralisation de la vie politique congolaise. Je prends l'exemple de la France. Il est strictement interdit aux entreprises de financer la campagne électorale des candidats. Mais en RDC, vraiment c'est un silence et on ne sait pas l'origine exacte des moyens dont disposent les différents candidats. Alors ce qui fait que il y en a qui peuvent être financés par certaines entreprises moyennant quelques promesses lorsqu'on est au pouvoir, voilà ce que nous ferons, tout comme il y en a aussi qui peuvent se permettre de dilapider les fonds de l'État. Voilà un peu la première faiblesse que j'ai pu constater au niveau de la loi pour encadrer bien les élections. Alors s'agissant des élections ou de la campagne elle-même, j'ai constaté ceci que les discours peuvent être catégorisés en deux groupes. Alors, nous avons par exemple le groupe, si je prends l'élection présidentielle, le président sortant et son camp mènent un discours vraiment légitimateur en brandissant leur réalisation et en montrant que s'ils sont reconduits, ils seront encore mieux ou ils pourront encore consolider ce qu'ils ont entrepris. Mais du côté de l'opposition, on observe vraiment un discours de nature à ternir l'image de ceux qui ont géré. C'est ainsi que, de ce côté-là, on ne tarde pas à entendre dans le langage de la campagne des mots tels que, bon, voilà, les candidats des promesses non tenues. Il y en a aussi dans les milieux dans lesquels ils battent campagne, ils tentent un peu de révolter la population pour dire voilà, les gens ont été au pouvoir depuis 5 ans, ils n'ont jamais foulé leurs pieds ici et vous les verrez maintenant venir battre campagne, venir descendre sur terrain ici tout simplement pour vous amadouer, mais en réalité ce sont des gens qui ne vous aiment pas, ce sont des gens qui se préoccupent moins de vos problèmes, etc., etc. Donc bref, je peux affirmer que le ton de la campagne électorale est vraiment agressif. Et on pense que avec ce ton agressif-là, on pourrait vraiment augmenter ses chances de pouvoir gagner l'électorat en défaveur des autres candidats.
Alors, mais professeur, c'est la campagne électorale, comme vous le dites. Il faut, tous les coups sont permis, mais on ne demande pas que ça soit extrême ou pour être extrémiste, non. les gens n'ont-ils pas le droit d'utiliser les faiblesses des autres pour les exposer aux yeux de la population pour pouvoir récolter plus de voix?
Oui, vous avez raison, tous les coups sont permis, mais dans une campagne électorale, le ton ne peut pas être que agressif. On peut adopter un ton neutre sans citer son candidat, mais insister beaucoup plus sur les actions que l'on compte mener. Mais ici, tout en insinuant quelque chose sur les actions que l'on mène, mais on sent que le ton est très agressif. Et ce qui présage que dans les jours à venir, et nous ne le souhaitons pas, que nous puissions assister, surtout par manque de socialisation politique, nous puissions assister à un affrontement entre les membres ou les sympathisants de tel ou tel autre candidat. Alors je voudrais aussi ajouter que la société civile a fait aussi une entrée très figurante dans cette campagne, notamment en insistant ou en faisant des déclarations telles que nous ne pourrons cautionner que les résultats qui nous seront présentés par nos observateurs et que en dehors de ça, nous n'allons pas accepter tout autre résultat. Alors, on comprend aisément que la campagne électorale est en train de se réaliser dans un climat de suspicion terrible entre, d'une part, l'opposition et le pouvoir, et même la société civile. Et c'est ici où je voudrais vraiment saluer les analyses d'Alain Lancelot, quand il disait que, est-ce que réellement la société civile est-elle apolitique? Mais il s'observe aisément en RDC que la société civile n'est pas apolitique, elle prend facilement des positions, elle est tellement engagée et engageante, au point que la société civile qui pouvait jouer le rôle de l'église au milieu du village risquait aussi d'attiser davantage des tensions et baliser le terrain pour des contentieux électoraux après proclamation des résultats.
Gaucher Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université catholique de Graben à Butembo, vous, qu'est-ce que vous en pensez une semaine après le lancement de la campagne? Est-ce que les choses se passent bien? Pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, une semaine après le lancement de la campagne, j'ai bien pris soin de relever certains faits, et ce sont les faits là que je vais partager avec vous, mais aussi les auditeurs ainsi que les amis avec qui nous sommes dans cette émission. Les faits marqués ou observés, c'est d'abord, premièrement, la constitution des deux pôles et des deux personnalités. Qu'est-ce que cela veut dire? On observe une espèce de rationalisation et personnalisation de la campagne. Ça se situe autour des deux pôles. L'Union sacrée de la nation, cartel au pouvoir, est favorable à l'actuel président, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi. Et le deuxième groupe, ou le deuxième cartel, c'est le cartel de l'opposition autour de Moïse Katumbi Chapwe, cartel constitué des leaders de l'opposition.
Pas tous. Pas tous les leaders.
Le deuxième fait. Pardon?
Je disais pas tous les leaders de l'opposition, quelques leaders de l'opposition.
Oui, pas tous. Pas tous, bien sûr. Le deuxième fait observé sur le terrain, c'est au niveau du discours des différents candidats. Pratiquement tous tentent d'un discours populiste. Tout pour mon peuple. Et moi, ou pas du tout, sur le problème majeur de notre société. Toutefois, on constate quand même que le discours s'est différencié. Le discours du gouvernant, c'est-à-dire le discours des continuités, qui consiste à défendre les bilans, mais aussi qui parfois porte sur des accusations, mais aussi de sauvegarder les acquis. Deuxième structuration du discours, c'est le discours de l'opposant. Qu'est-ce qu'on observe? On a l'impression que les opposants ont un discours de rupture, un discours de correction, un discours d'attaque du bilan et des promesses de faire mieux ou de faire bien. Troisième fait marquant, tous insistent sur les mêmes éléments. Les éléments sociaux. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sur le plan économique, quelques réalisations, mais aussi ce qu'il y a à faire, mais aussi sur le secteur de la sécurité, notamment à l'Est. Bref, le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce sont des promesses jusqu'à l'heure qu'il est. Qu'après une fait marqué, et effectivement, les collègues ont eu à rappeler ça, on observe une très grande inégalité entre des candidats. Deux candidats ressortent, l'actuel président et le candidat Moïse Katumbi-Tchakoui. Tous deux utilisent de gros moyens. Ils utilisent l'argent, ils utilisent les fiances, ils utilisent le prestige, ils utilisent les bilans, ils utilisent les charismes, ils utilisent carrément tous les moyens de communication qui sont mobilisés. Le fait suivant, on observe, particulièrement dans la vie de Ptembo, il y a des actes de violence verbale, mais surtout physique, et qui sont caractérisés par quoi? La destruction de photos des candidats. On observe également un traitement quelque peu équitable des candidats. À la sécurité. Bien évidemment, il y a des policiers qui sont commis à la sécurité des candidats, même si, par moment, il y a quand même de petites difficultés. On observe également l'accès aux espaces publics où se tiennent les meetings. Je donne encore une fois le cas de la ville de Boutembo. Quels sont encore les faits qu'on observe? Pratique de vente et d'achat de vote. Pas l'établissement d'une relation donnant-donnant. Et cette relation, comme le dit d'ailleurs Richard Banegas, c'est le ventre et le vote. Et Jean-François Bayard lui parle de cagotage, qui consiste à quoi? À plus divers des candidats aux projets divers dans différentes circonscriptions. Et en fait, on observe, comme l'a dit aussi les collègues, la faible régulation de la campagne par l'État et la CENI. Dans certains secteurs, on a observé des campagnes précoces, on observe de plus en plus des tapages diurnes, des tapages nocturnes, mais aussi un appui très faible de l'État aux candidats. Et les candidats faibles vont rester exactement dans les oubliettes. Ce qui constitue réellement un manque des régulations de notre État, parce que la démocratie, c'est la liberté, la démocratie, c'est aussi l'égalité. Voilà les quelques faits que j'ai pu observer.
Merci, professeur Kizito. Alain Lomanja, ces élections ne concernent pas seulement la présidentielle, mais aussi les élections législatives, nationales et provinciales. Une semaine après, la campagne est toujours quand même assez timide hein, sur les terrains. Est-ce que les candidats continuent de douter de l'organisation des élections ou c'est aussi un problème des moyens?
D'abord, quand, c'est un peu paradoxal au Congo, on a parfois des candidats députés nationaux, provinciaux qui battent campagne sur des idées propres qui ne sont pas des idées de leur parti politique. Et je ne sais pas comment un candidat député isolé peut réaliser les promesses de campagne électorale qu'on entend parfois en écoutant ces candidats députés-là. Et il y a aussi un autre problème réel. Quand vous écoutez, par exemple, certains candidats de l'Union sacrée aux différents niveaux, ils vont vous dire qu'ils sont toujours dans l'attente de l'argent qu'on ne leur a pas encore donné les moyens pour aller battre campagne dans leur circonscription électorale. Donc il y a un sérieux problème de financement de ces partis-là. Je ne sais pas comment les regroupements politiques s'organisent pour trouver de l'argent et appuyer les différents candidats. Mais effectivement, il y a un problème d'argent, un problème de financement de la campagne des candidats. Alors, la pratique a toujours montré que c'est en général les candidats présidents de la République qui appuient les candidats députés nationaux et provinciaux. Mais ce que je constate cette fois-ci, je ne sais pas si c'est un constat qui va se confirmer, mais j'ai l'impression que les candidats présidents de la République, pour certains en tout cas, la campagne électorale a été prise très au sérieux et ils s'impliquent individuellement sans toujours faire appel aux alliés ou aux candidats députés pour qu'ils les accompagnent dans leur circonscription électorale. Donc je pense qu'il y a un problème de financement qui se pose à ce niveau-là, mais aussi un problème de discours. Quel est le discours qu'un candidat député va tenir? Ils ont tendance à faire des promesses qui relèvent de l'exécutif, comme si leur travail de futur député consistait à financer des projets de développement dans leur circonscription. Et quand ils font ces promesses-là, et qu'ils sont élus, ils sont par hasard élus, ce qui arrive, c'est un malentendu considérable entre les députés et leurs électeurs.
Alors, vous allez rester en ligne, on va prendre très rapidement pour voir Lomanja, cet auditeur qui nous appelle de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Georges Kilangalanga, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le bilan de la première semaine de la campagne électorale laisse présager un duel Katumbi-Tshisekedi. Par ailleurs, nous avons noté une campagne électorale basée sur les individus au lieu des programmes, comme d'habitude, mais également quelques cas de provocation entre militants, mais aussi l'utilisation des moyens matériels et humains de l'État par des candidats qui sont au pouvoir. Plusieurs candidats et leurs militants passent leur temps à des attaques verbales dans les réseaux sociaux, donc à des débats subjectifs au lieu de présenter aux Congolais des programmes qui peuvent donc améliorer leurs conditions de vie. Dans ces conditions, nous pensons que les élections du 20 décembre 2023 sera comme les autres cycles électoraux passés, et les gens qui seront élus, ils seront élus sur base de leur réputation, de leurs individualités, au lieu des programmes électoraux présentés aux Congolais.
Alain Lomanja, brève réaction.
Je partage l'avis de l'auditeur dans une certaine mesure. Je pense qu'il a tout à fait raison de regretter que le programme ne soit pas mis en avant et que ce soit plutôt les personnalités qui émergent. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que on est peut-être un peu trop idéaliste dans les attentes vis-à-vis des candidats. Je crois que chacun donne ce dont il est capable et que, bon, ce n'est pas forcément les programmes qui déterminent le choix des électeurs, et les candidats sont bien placés pour le savoir.
Professeur Jeff Moudimbi, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Achille Omar s'est appelé depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il s'observe une timidité en grand pourcentage sur le terrain depuis le lancement officiel de cette trêve électorale. Certains candidats contactés en coulisses déplorent l'insuffisance des budgets par rapport à ce qu'ils ont comme argent reçu ou de leurs propres moyens. Cependant, le constat est amer. À la présidence, aucun des candidats n'a convaincu le peuple avec un programme de relance, de développement auquel tout Congolais s'attendait. Malheureusement, ces derniers ne sont que des évangiles qui vont dans le sens de critiquer ces calendriers. Et d'autre part, certains qui semblaient résister en fustigeant les fichiers électoraux se lancent sur la scène. La question qu'on se pose est de savoir si ces élections sont organisées pour le respect de la loi constitutionnelle, un changement des représentants, ou encore moins, c'est un scénario politique pour une alternance dans le cahier des charges.
Professeur, comment vous répondez à cet auditeur, Achille, qui nous a appelé depuis Lubumbashi?
Bien, merci beaucoup. Je pense que la timidité à laquelle il fait allusion peut être expliquée par deux faits. Premièrement, bon nombre de candidats, même aux législatives, n'étaient pas sûrs que réellement les élections allaient être organisées en date du 20. Il y en a qui étaient en train de douter, si réellement ces organisations auraient lieu. Alors, ce qui fait que, bon, dans ce doute-là, il y a eu qui ont ralenti un peu les pas pour pouvoir se lancer dans la campagne électorale. Et deuxième élément, c'est que la plupart de ceux qui briguent le mandat à la législature nationale n'ont pas assez de moyens propres. Ce sont des candidats qui dépendent de leur parti politique. Et tant que le parti politique ne disponibilise pas l'argent, donc ils peuvent commencer d'abord timidement avec leurs moyens de bord, mais in fine on constate que la campagne est timide. À ce sujet, je voudrais quand même évoquer quelque chose qui risque d'amener toujours ce pays ici dans une grande confusion. Madame Kéline, vous voyez par exemple, la plupart de ceux qui ont des partis politiques, et ce sont des gens qui sont des ministres, donc qui sont déjà au gouvernement et qui ont suffisamment de moyens. Et ces mêmes gens sont en train de financer les députés nationaux. Or, les députés nationaux, ce sont des gens qui sont là pour contrôler la manière dont le gouvernement est en train d'assurer la gestion des affaires publiques. À partir du moment où ils ont été financés par ceux qui sont déjà au pouvoir, mais si ces gens sont élus, pensez-vous vraiment qu'ils pourront contrôler réellement la gestion des affaires publiques par le gouvernement? Alors, ce sont autant de choses, quand on y pense, on se dit que, bon, même si on organise les élections, c'est vrai, il y a trop de promesses de pouvoir améliorer le social de la population, de pouvoir amener le pays sur la voie de l'émergence, du développement, mais il y a des fortes, des doutes assez sérieux qui montrent que le système politique congolais a déjà des germes de sa propre destruction, au point que, bon, c'est vrai, on organise les élections, mais il y a beaucoup de doutes quant à l'amélioration du quotidien du Congolais.
Merci, professeur. On va lire quelques réactions des internautes qui nous écrivent. David Douedi, depuis Kinshasa, une semaine après la campagne électorale de décembre 2023, est dominée par le populisme à la place des projets de développement que présente chaque candidat. Samson est énervé, je pense, qui nous suit depuis l'Ituri. Merci beaucoup. Maëlle Matungulu, depuis Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu. Merci de nous suivre depuis Kananga. Joseph Chibang, vous êtes très très nombreux à nous envoyer des messages sur notre page Facebook. Alain Boueté, la campagne électorale 2023 est très timide par rapport aux années écoulées, car les moyens ne sont pas encore, les partis ne sont pas encore financés jusqu'à présent. Jado Iguilima, à Bukavu, le professeur Jeff Mudimbi, en insinuant que la société civile n'est pas neutre, il sait qu'elle ne devrait pas être neutre car elle doit se ranger du côté de la population. C'est pourquoi lorsque le pouvoir en place va à l'encontre de l'intérêt général, on a tendance à classer la société civile du côté de l'opposition. Je pense que le prof a suivi votre réaction, Jado Iguilima. Alors, on va reprendre notre standard pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Bukavu dans la province plutôt du Sud Kivu. Ça sera pour vous, professeur Gaucher Kizito.
Accent Tichengamou, Olivier, depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Depuis Mabor, il faut noter que la première semaine de la campagne électorale montre que certains candidats ont déployé des moyens importants pour battre campagne et ont parcouru plusieurs provinces, tandis que d'autres ont un rythme plus lent et continuent à se plaindre alors que les jours de la campagne électorale sont comptés. Il n'y en a eu aucun incident majeur à signaler jusque-là. Et alors, les 6 candidats qui ont traduit en justice le président de la CENI montrent qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Il s'agit là d'une fuite en avant de leur part. Fayoulou et son équipe jouent un jeu de cache-cache. Jusque-là, on ne sait pas, ils naviguent dans quel sens. En outre, il faut noter quand même que l'équipe de Katumbi joue un franc jeu, un jeu très sérieux et organisé. Parce qu'ils montrent qu'ils sont prêts pour aller aux élections et faire face au pouvoir en place. Par ailleurs, il faut noter aussi que les cas du pouvoir en place naviguent à vie. Ils ne savent pas où ils vont. Ceci parce qu'il n'y a pas, on ne sent pas vraiment de la rigueur dans leur organisation. Et face à ça, nous pouvons dire que la campagne électorale semble se dérouler de manière relativement calme, mais avec des tensions et des stratégies politiques en jeu. Jusque-là, la situation n'est pas claire si la tenue des élections vit la timidité et les plaintes des uns et des autres. Et c'est ça un peu la quintessence de ma contribution.
Professeur Kizito.
Oui, merci pour la question. En effet, comme l'auditeur l'a dit bien, il y a des candidats qui disposent de moyens colossaux, de moyens accumulés au courant des années. Et ces candidats, ce sont ceux-là qui ressortent et qui sillonnent la plupart des provinces en une semaine déjà de campagne. Et par contre, il y en a ceux qui priment, ceux qui ont des difficultés à pouvoir se déplacer par-ci, par-là. Et cela pose le problème, effectivement, au niveau même de l'application de la loi sur les partis politiques. Parce que, il égard à cette loi, il est prévu dans cette disposition que les différents partis politiques doivent bénéficier des moyens de l'État. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Ce qui fait que, donc, l'État ne sait pas mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Parlons de gouvernants qui seraient en train de naviguer à vue. On a comme l'impression au niveau de l'Union pour la Nation que l'Union pour la Nation éprouve quand même certaines difficultés pour défendre les bilans qui, par en trois, on peut quand même se le dire, il y a quand même des choses qui ont été faites, peut-être pendant ces 5 ans, mais ces choses qui ont été faites, que ce soit par exemple dans le secteur social, dans le secteur économique, et quelques efforts qui sont en train d'être fournis pour que peut-être la sécurité puisse être rétablie à l'est. Mais tous ces efforts, y égard à ce que les citoyens continuent à vivre, se rendent compte que réellement que les bilans demeurent toujours mitigés. Et donc, il est pour l'Union pour la Nation une occasion encore pour pouvoir défendre davantage ce qu'ils ont eu à réaliser pendant les 5 ans passés. Mais comme il appartient maintenant aux électeurs, ou aux citoyens congolais de pouvoir voter en définitive le 20 décembre, pour qui ils estiment les bilans ou pour qui ils estiment le programme satisfaisant, il a citoyens congolais de pouvoir dire les derniers mots par rapport aux élections qui, en principe, auront lieu le 20 décembre 2023.
Alors, par rapport aux élections du 20 décembre, vous avez suivi cet auditeur Axanti qui pense que si cette campagne est encore timide une semaine après, c'est parce qu'il y a encore ce doute là. On se demande est-ce qu'il y aura élection ou pas le 20 décembre 2023.
Et en fait, si l'organisme qui est chargé d'organiser les élections, et c'est exactement cet organisme qui constitue donc la bouche autorisée pour pouvoir préciser des choses. Et la CENI a bien dit que les élections ont lieu au mois de décembre, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Donc ils font quand même qu'on continue à faire confiance à la CENI et ils font que tous les candidats, tous les citoyens soient prêts pour pouvoir être prêts à pouvoir aller aux élections le 20 décembre 2023. Donc, je ne saurais pas vraiment rentrer dans les spéculations autour des questions est-ce qu'il y aura élection, est-ce qu'il n'y aura pas élection. La CENI a dit que les élections auront bel et bien le 20 décembre. Ils font que, et les candidats et les électeurs se préparent conséquemment.
Alors, Kyungu Moloumé, depuis la ville de Likasi, hormis les attaques individuelles entre les deux camps, notamment l'Union Sacrée et Ensemble pour la République, signalons aussi le manque d'équité au regard de tous les candidats. Safi, que nous suit depuis Kinshasa, estime que l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 va se jouer entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera votre conclusion.
Alors, comme je le disais, il y a effectivement la constitution de deux pôles.
il y a la constitution de deux personnalités importantes. En voir le déroulement des élections pendant les quelques jours qui viennent de commencer. Qu'est-ce qui se passe? Des côtés, on a le président actuel, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'autre, on a Moïse Katumbi-Tshabwe. Et cela, c'est avoir le fait sur le terrain, notamment au niveau des différentes provinces dans lesquelles ils ont eu à battre campagne, mais aussi dans certaines villes dans lesquelles ils ont eu aussi à battre campagne. Et par endroit là où ils passent, ils organisent des meetings et avoir l'engouement des masses, l'engouement des populations, on peut se rendre compte réellement que, comme le disaient d'ailleurs certains de nos débatteurs, c'est que, des côtés, on a le président Antoine Tshisekedi et de l'autre, on a Moïse Katumbi-Tshabwe. Et cela s'explique dans le sens où ils ont des bilans qu'ils sont en train de défendre, que ce soit pour l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi et que ce soit pour Moïse Katumbi, qui, à la tête de la province du Katanga, il a eu à réaliser beaucoup d'activités, beaucoup d'actions dans le secteur social, dans le secteur économique, mais aussi dépend de la République, il y a des actions par emploi.
Merci.
Il a eu à réaliser.
Donc,
ce qui fait que
le sentiment
de population fait que on a l'impression que ce sont ces deux personnalités qui ressortent de l'ensemble des différents candidats à la présidentielle.
Merci, professeur Gaucher-Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives à l'Université catholique de Graben à Butembo. Alain-Joseph Lomandja, ça sera aussi votre conclusion. Vous êtes en la liste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Patrick Sélémane dit ceci, le peuple a besoin d'eau, d'électricité, des routes, sécurité et l'amélioration du social. Cédric Matombo, depuis le Bumba. Lui pense que ce processus électoral, c'est juste une mascarade.
Je pense qu'il faut toujours éviter des jugements prématurés et surtout des généralisations sur le processus électoral parce qu'il est toujours important de l'apprécier en fonction des activités concrètes réalisées par l'organe de gestion des élections. En guise de conclusion, oui, je pense que la population a des besoins spécifiques sur lesquels elle attend les contributions des prétendants, des candidats. Et c'est pour cette raison-là que nous avons aussi le devoir et le droit d'appeler à une forme de moralisation de la vie publique, comme le professeur Jeff Moudimbi l'avait dit tantôt, mais aussi à un égal traitement de tous les candidats. Il faut que des mesures soient prises pour éviter que certains financent leur campagne à partir du trésor public et que d'autres soient dépourvus de tout.
Merci Alain Lomandja, professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives à l'université, voilà, de Lubumbashi. Iris Ebondo, voilà, nous sommes désolés, madame Kelly, les jeunes députés qui n'ont pas des moyens n'auront pas accès facile, ne sauront pas atteindre leur base. Ça c'est l'écrit, hein, des jeunes députés qui ne savent pas atteindre leur base parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est vrai qu'on a évoqué tout au long de cette émission la question des moyens. Ça veut dire que si vous n'avez pas de moyens, vous êtes d'office exclu de la campagne, professeur. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait retenir?
Bien, je l'ai déjà dit toujours dans cette émission que sans moyens, pas moyens. On ne peut pas faire de la politique sans moyens. Tout comme aussi, on ne peut pas envisager ou on ne peut pas prétendre mener sa campagne sur les moyens dont on attend, parce qu'on ne sait pas si les moyens seront donnés ou encore ou pas. Alors, ce qui fait, effectivement, c'est une réalité indéniable. Quand on n'a pas de moyens, c'est difficile que l'on atteigne sa base. Parce que la campagne électorale exige que les candidats puissent déployer beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, non pas pour corrompre les électeurs nécessairement, mais beaucoup de moyens pour la locomotion, le déplacement du candidat et même de ses sympathisants, le logement, la restauration, l'impression des polos, l'impression de calicots et de fichiers. Alors tout ça nécessite nécessairement des moyens.
Mm-hmm.
C'est vrai, il y a des candidats qui ont pensé que, bon, ce sera un travail de demoiselles, mais sur terrain, on a constaté que sans moyens, il n'y aura pas moyen.
Merci, professeur Jeff Modimbi, Dialogue Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Donna Madimba, Jonathan Fonani, Hervé Voka, Willem Lungamba, Dieudonné Nyangasa, Jonathan Fonani, oui, Clément Chimanga, présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.